Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, on va ouvrir un nouveau passage dans notre Bible. Alors, en apparence, ça pourrait concerner qu'une catégorie de frères et de sœurs, mais ça concerne tout le monde, parce que c'est un petit peu un regard en diagonale sur la vie. Et vous savez que la vie, elle est faite de l'enfance. Après, il y a l'adolescence, il y a la jeunesse, il y a l'âge mûr, il y a ce que je vais vous parler maintenant, et puis il y a également le grand âge. Voilà. Alors, je voudrais vous parler des bénédictions de l'automne. On est en été. Un peu trop tôt, on me dit. Mais, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors, je vous propose, pour illustrer notre méditation, pour une bonne compréhension, on va faire comme il se doit, comme c'est souvent présenté ainsi dans la Bible, parce que c'est une belle histoire de la vie qui fait usage, eh bien, du monde animal, du monde végétal, le monde des hommes. Et il y a tellement de ressources extraordinaires. Alors, Ésaïe, si vous voulez bien. Ésaïe, chapitre 65, et le verset 22. On ne va pas prendre la première partie du verset 22, on va prendre la seconde. Mais vous allez le reconnaître. Situez-vous au verset 22 et puis on passe tout simplement deux lignes. Deux, trois lignes. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Il s'agit de Dieu à Israël qui bénit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alors, quand je vous ai cité tout à l'heure les bénédictions de l'automne, j'y ajoute de la vie. Parce qu'on pourrait peut-être parler d'agriculture, d'arboriculture, on pourrait parler de toutes les récoltes qui se manifeste à l'automne. Pour la vigne, eh bien, c'est la vendange. Pour d'autres productions, eh bien, il y a d'autres noms qui, naturellement, eh bien, s'y inscrivent. Mais c'est bénédiction de l'automne de notre vie. Et je voudrais donner une précision encore davantage, c'est qu'il s'agit de la vie spirituelle, de la vie des croyants. Alors, on a une vie commune à tous les hommes, naturellement, hein, mais il y a une vie particulière. Tous les hommes naissent une fois. Nous, nous sommes nés deux fois. Vous, oui. Et là, cette fois-ci, on était tout à fait conscients. Vous vous souvenez de votre naissance première? Pas du tout, hein. Heureusement qu'il y en a qui ont pris des photos. Hein. Et quelles photos! Mais moi, je voudrais vous parler tout simplement eh bien, de cette deuxième naissance. Régénération, rencontre avec Jésus-Christ, cet émerveillement de la parole qui nous a donné eh bien, une espérance pour l'éternité. Donc, bénédiction de la vie. Il y aura nécessairement, et nous nous en approchons de plus en plus, du crépuscule. Je ne voudrais pas vous faire pleurer, mais ça c'est inéluctable, hein, on ne fera pas autrement. Et dans les saisons naturelles, eh bien, c'est l'hiver. Et l'hiver, il paraît que tout s'endort. mais avec une espérance extraordinaire, c'est que tout s'endeure pour renaître, avec plus de force, avec plus de vigueur. Et ça, ça devrait être, ne serait-ce que si nous ne sommes pas des grands spirituels, en tous les cas, la nature est là pour nous dire, mais il y a toujours quelque chose après. Eh oui. Et on a du mal à comprendre que le monde est sans espérance malgré l'ouverture du grand livre de la nature qui nous parle que Dieu a tout fait pour la vie. Alors, naturellement, tout ça, eh bien, c'est intéressant. Le crépuscule, quand on arrive au grand âge, et nous avons dans cette église des frères et des sœurs qui sont au crépuscule de la vie. Ça s'éteint, mais bientôt ça va se rallumer d'une manière extraordinaire. Et moi, je me plais à véritablement contacter, prier, rencontrer ces frères et ces sœurs qui sont au crépuscule. Ils me disent « Je suis si fatigué ». C'est souvent ce que j'entends. « J'ai plus de force ». Mais néanmoins, on sent que la flamme, elle est toujours là. Peut-être plus qu'avant, au fond des cœurs. Et ce sont des gens qui nous font du bien. Parce que nous n'y sommes pas encore. Mais ça va venir. Je ne veux pas vous faire pleurer quand même, non ? Ouais, j'espère, hein, parce que là, moi, j'arrête tout. Hein. Et puis l'automne, c'est avant l'hiver. Et ça peut concerner beaucoup d'entre nous. Cheveux noirs, cheveux gris, cheveux blancs. Ne les cachez pas, parce qu'il nous est dit que les cheveux blancs, c'est la couronne de sagesse, finalement. Une couronne de sagesse sur la tête de l'homme. Et l'automne, c'est les fruits qui ont mûri en été. On a juste à les prendre et à les décrocher, et ils sont à point. Ils sont juteux, ils sont savoureux. Moi, je regrette, et vous avez certainement fait l'expérience, qu'on nous vend aujourd'hui des abricots qui ne sont pas mûrs. Alors, on en a acheté cette semaine, durs comme de la pierre. Myriam a eu une idée, elle m'a dit, on va les faire cuire, on va faire une tarte. Je vous raconte des choses n'importe quoi. Et de ces abricots cuits, bien préparés, tout ça, ma femme m'a fait la plus belle tarte et la plus bonne tarte que j'ai jamais mangée. Ouais, je ne pourrais pas vous inviter tous parce qu'elle va me gronder de dire, voilà, ça fait trop de travail. Bon, les fruits mûrs de l'été, vous savez ce que nous sommes si nous sommes au milieu de la vie. Nous sommes en train de préparer, nous n'en sommes pas toujours conscients. Hein, 30, 40, 40, 50, 50, oui, c'est 60. Et c'est là, quelquefois, on est plein d'activités, tout ça. Et pourtant, c'est là où on est en train de produire, sous le soleil de l'esprit, sous le soleil de Dieu, dans notre marche, ce qui va finalement advenir à la saison prochaine. Eh oui, c'est extraordinaire. Et les fruits mûrs de l'été. Et voilà que dans notre texte que nous avons lu, c'est très anodin ce qui est dit, hein, c'est une petite phrase sibylline, mais écoutez, comme les jours des arbres. Vous savez que dans le monde, il y a des arbres, moi je pense au séquoia. Vous avez peut-être un séquoia dans votre jardin. Oh. Vous me faites rire. Ils font je ne sais combien de tours de taille. Alors, il n'y a pas moyen de mettre ni bretelles ni ceinture. Ça ne sert à rien. Et puis, ce sont des arbres qui ont des hauteurs jusqu'à 140 mètres. Il paraît qu'aux États-Unis, à Yosemite, eh bien, y en a un qui fait jusqu'à 130, 140 mètres. Alors, l'échelle, il faut qu'elle soit grande. Hein. Et puis, la longévité, 2500 ans. Waouh ! Imaginez-vous que si on vivait ce temps, ça serait quelque chose d'impressionnant. Hein. Je le dis et je le répète, ça serait véritablement une catastrophe pour les caisses de retraite. Alors, comme les jours des arbres, et c'est là-dessus que l'on va méditer ce matin, il y a bien des choses qui sont intéressantes. Et c'est vrai que les descriptions qui nous sont données de l'ordre qui existe dans la Bible, qui est décrit dans la Bible l'ordre végétal, les arbres, eh bien c'est une description qui nous est faite et qui force l'admiration de la création et de son créateur. On regarde beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses dans ce monde. Mais l'arbre, il est silencieux, il ne change pas de place, mais il pousse. Et vous savez où il va ? Vers le ciel. Et il a des racines, parce que c'est ce qui lui sert à s'alimenter. Et puis, il produit des feuilles, sa ramure, sa beauté. Et puis, il y a les fruits également, divers, naturellement, en fonction de l'espèce. Alors, l'arbre, ou les arbres, dans notre réflexion, est pris en exemple, justement pour nous enseigner. Et il y a là, eh bien, naturellement, toutes sortes de fonctions, de capacités. Il y a l'arbre nourricier, moi je pense aux arbres fruitiers, quand on n'est pas trop impatient et que l'on prend les fruits quand ils sont mûrs, naturellement. Il y a l'arbre tutélaire, celui qui protège, celui qui nous met à l'ombre, celui qui nous rassure, parce qu'on est sous un... Oh, c'est un immeuble, pour, dans certains cas, quelque chose, hein, l'arbre tutélaire, d'ailleurs on le nomme comme ça. En considérant ce qui a été accompli ou non. C'est pour ça qu'il est dit à un moment donné dans notre texte, « Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. » Donc, la longévité, le renouvellement, ce qui demeure, ce qui reste, ce qui va avoir une suite, comme les jours des arbres, et mes élus, ceux qui font confiance à Dieu, eh bien, jouiront de l'œuvre de leurs mains. Parce qu'un arbre, ça pousse, mais ça pousse aussi entre les mains des hommes. Il faut qu'il soit planté, il faut qu'il soit arrosé, il faut qu'il soit peut-être équarri, il faut qu'il soit... Il y a toutes sortes de choses. L'œuvre des mains. Et je pense que, comme le dit cette belle parabole dans le psaume, nous, les yeux de la servante et du servante sont sur les mains du maître. Et c'est lui qui nous apprend à travailler, c'est lui qui nous apprend à gérer cette nature, qui nous apprend à gérer toutes ces beautés, pour notre bénéfice, pas pour lui. Hein. Eh oui, ça c'est des choses qui sont magnifiques. Je fais une petite observation, c'est que l'arbre, si sa nature de reproduction est la graine, eh bien il y a quelque chose que nous pouvons véritablement en comprendre la signification et la perspective, dans la sphère de l'éternité. C'est-à-dire, c'est la longue conservation des graines. Oui, il y a des silos, il y a des greniers dans le temps. Hein. On mettait à stratifier les graines, là, en attendant qu'elles soient utilisées. Enfin, celles qui étaient sélectionnées, si elles ne passaient pas chez le boulanger, eh bien, il y avait toujours une sélection qui était faite, et elles se conservaient hein, dans un endroit sec, un endroit sombre. Et nous voyons que ça nous parle de cette conversation des graines. Et la graine, c'est l'emblème de la reproduction et de la continuité de la vie. C'est grave hein, si on n'avait plus de graines. Hein. On n'irait pas loin. Quand on voit les circonstances d'aujourd'hui où on brûle les champs de blé en les bombardant, quand on voit que l'on va affamer une partie du monde entier par folie, cruauté, ambition démesurée, je me dis, mais c'est de la folie, des choses comme ça. Quand on sait qu'il y a un tiers des hommes qui n'ont pas de quoi manger. C'est terrible. Mais c'est la folie des hommes. Hein. L'homme est vraiment malade, me semble-t-il. Et on s'aperçoit que cette conservation de la graine est parfois est accompagnée avec une tardive germination. Nous, on utilise peut-être aujourd'hui en ensemençant, ça va bientôt être la saison, ça va être l'automne, on va faire les labours, on va retourner la terre, et bientôt, il va y avoir là l'ensemencement, on est loin du semeur qui sortit pour semer, hein, naturellement, et qui faisait les 1000 pas dans son champ. Maintenant, on a des engins qui, enfin, c'est assez... Bon, c'est comme ça, parce que bon, hein, la population, la démographie mondiale demande que les choses soient faites de cette manière. La germination tardive, écoutez bien, et qui peut être en mois, qui peut être en années. Et on a découvert, les scientifiques ont découvert, les botanistes ont découvert qu'il y avait des graines qui avaient plusieurs siècles et qui étaient restées intactes. soit dans des lieux appropriés, dans les tombeaux par exemple. Et vous savez que dans le monde, c'est pas un silo puisque c'est creusé dans la terre, profondément dans la terre, c'est en Scandinavie. Et ils ont là collecté toutes les graines possibles qui poussent sur la terre, en pensant à demain, après-demain, et dans les siècles qui vont venir, si véritablement le Seigneur n'est pas revenu. Et ils les gardent dans des conditions pour que ceux qui viendront peut-être dans 200 ans, dans 1000 ans, et puis peut-être plus, hein, dans une espérance humaine, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a encore des graines qui sont encore en capacité de germination. Et qu'est-ce que ça va donner? Peut-être que les gens à l'époque seront en disant « mais nous, on n'a pas connu ça ». Et quoi qu'on est en train de réinventer des vieilles cultures aujourd'hui, hein. Regardez, on le disait la semaine dernière, les gens quittent les villes, ils sont informaticiens, mais ils veulent maintenant aller garder les chèvres et puis faire de la culture potagère, hein, en Lozère, ou voilà. Et ils sont en train de ramener quelque part des graines qui ont été longtemps interdites, parce que ça devait être normalisé avec toutes sortes de conventions mondiales. Mais on est en train de réinventer des vieilles plantes et dont les graines sont restées intactes pour qu'elles puissent germer tout à nouveau. C'est le mystère de la graine, c'est le mystère de la germination tardive. Et cette graine semble endormie. Un grain de blé, vous le prenez au bout de votre doigt, c'est pas grand-chose, hein. Il y en a des petites, il y en a des plus grosses, naturellement, hein. Et nous voyons que cette graine endormie, mais elle n'est jamais éteinte, parce que Dieu y a mis un principe inerte, peut-être inerte temporairement, mais elle a la vie, le principe de vie est encore en elle. Il suffit de la mettre dans les conditions humus, humidité, chaleur, soleil, et ça va repousser. C'est formidable, hein. Ah ouais, moi, je suis toujours émerveillé de voir ce que le Seigneur a fait dans le monde de l'humain, dans le monde des végétaux, dans le monde des animaux, vous vous rendez compte? Comment le Seigneur a fait pour peindre une panthère ou un zèbre? Il a dû passer du temps, hein, quand même, hein. Puis alors les quantités de peinture qu'il fallait, hein. Comment ça se fait qu'il a fait des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges? Je m'arrêterai là parce que c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est la stratégie, le génie inexplicable de Dieu. Inexplicable. Donc je disais, cette graine n'allait jamais éteinte, et elle garde en elle-même, mais dans des proportions, c'est microscopique, hein, dans des proportions, elle garde son potentiel de vie, et Jésus le dit, il le met en lettres de feu dans une des lettres de Jean, c'est Jean qui l'écrit naturellement sur ce que Jésus a dit. Si le grain de blé semblant mort, j'y ajoute moi-même parce qu'on connaît la suite, hein, revit et vit, il nous parle tout simplement de la nouvelle naissance. Hein. Et il faut que nous mourions à nous-mêmes dans le principe de la sanctification pour que nous développions une vie nouvelle. Mais il faut mourir, il faut se dépouiller de la cosse. Il faut se dépouiller des... j'ai oublié tout ça. Pourtant, je suis un passionné de botanique. Mais voilà, cotylédon. Et tout ça pour laisser le principe de vie avec la petite graine, la petite germination qui va dire « Je suis là !» C'est beau de voir une graine pousser, non? Prenez des haricots. Mettez-les dans la ouate. Vous les arrosez et vous allez voir. Vous en avoir un au départ. Mais c'est tout mignon, ça. C'est un bébé, en quelque sorte. Et avec ça, on nourrit le monde. Et ça va offrir la fertilité et une productivité explosive. Moi, j'aime bien les reportages sur la nature. Et vous savez qu'il n'y a pas que dans cet endroit, mais vous savez qu'en Namibie, c'est dans le sud de l'Afrique, vous l'avez certainement vu, ce désert, il peut être sec, comme le désert le plus sec du monde. Et une fois tous les 8 ans, tous les 10 ans, peut-être plus, hein, je n'ai pas considéré les choses, mais au bout d'un certain temps, vous avez des nuages qui arrivent, par l'océan, et là qui vont arroser abondamment, et deux ou trois jours après, vous n'avez plus un désert, vous avez un jardin merveilleux. En l'espace de quelques heures, les fleurs vont sortir de toutes les couleurs. Vous l'avez vu ça? Ah ouais, c'est extraordinaire. Si vous avez un ordinateur, vous tapez Namibie, puis vous y allez. Et mais vous choisissez votre temps, hein, parce que vous pouvez attendre longtemps, ça peut durer 10 ans. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est formidable. Et après, tout disparaît. À un moment donné, le désert, la sécheresse va revenir et tout va disparaître. Donc, il y a des principes qui attendent. Il y a des choses qui sont enfouies, on ne les voit pas, elles semblent mortes. Des principes qui semblent morts, mais quelque part, eh bien, il y a la vie qui attend. S'il y a des conditions favorables, il y a Dieu qui peut le savoir, ça. Il y a Dieu qui peut le savoir, naturellement. Mes frères et sœurs, vous vous dites, « Ah, moi je suis vieux. » Mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour porter des fruits. Il n'est jamais trop tard, peut-être, pour rentrer dans une vocation. Il n'est jamais trop tard, peut-être, pour découvrir qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier qui vous attend, peut-être. Vous avez dit, « Seigneur, moi, je t'ai demandé, parce que beaucoup l'ont fait, hein, sers-toi de moi, Seigneur. » Et puis les années, les décennies ont passé, et puis vous êtes toujours dans le statu quo. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se fait. Vous savez que parmi les disciples, et parmi tous ceux qui ont suivi Jésus dans l'histoire, il y avait des jeunes et il y avait des moins jeunes. Eh, notre brave Moïse, hein, le Seigneur a été le chercher à l'EHPAD. Hein. Allez, sors maintenant de ton EHPAD, sors de ta maison de retraite. Je voudrais t'envoyer faire un petit tour en compagnie. Oh, il y aura quelques personnes, il y en aura 2 millions. Et tu vas aller dans le pays de Canaan. Et puis il y a des gens qui sont appelés beaucoup plus jeunes, très jeunes même. Alors, il n'est jamais trop tard, mais il faut rester vraiment disponible, notre cœur disponible entre les mains de Dieu à l'écouter. Ne vous découragez pas, parce que vous avez les cheveux blancs, et de moins en moins. Et pour certains, vous n'en avez plus du tout. Je dis ça parce que j'en ai encore un peu. Mais je me moque pas. Hein. Je respecte. Eh oui. Parce que pour les croyants que nous sommes les uns et les autres, il y a les doutes de l'âge qui nous viennent de différentes manières. Parce qu'on regarde les autres et la comparaison n'est jamais bonne. Enfin, elle n'est pas toujours positive. C'est ça, plutôt. Et puis, il y a aussi la perte de force. Moi, il y a des choses que je ne peux plus faire maintenant. Hein. Ouais. Bon, c'est pas toujours facile de suivre Myriam. Elle marche bien. Mais il y a des choses qui, quelquefois, me pèsent. Et je les aurais fait il y a encore 20 ans. Puis sans me poser la question, hein. Aucun problème, hein. Spontané. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est déjà un petit peu plus difficile. Alors, les questions qui se posent, mais à quoi je sers encore maintenant? Celui qui arrive à la retraite, il dit, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Il a supplié le Seigneur, il a prié en disant, pourvu que la retraite arrive. Et quand on est à la retraite, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Remarquez, vous ne tracassez pas. Moi, j'ai toujours entendu les retraités dire, j'ai pas le temps. À quoi je sers encore? Puis-je être encore utile, ne serait-ce qu'à l'Église? À mes frères et mes sœurs, mais bien sûr que tout ça. Remis devant le Seigneur, mais bien sûr que tout ça. Le Seigneur a quelque chose. Parce que avec la vieillesse, avec l'âge, on a forcément acquis des expériences de prudence, de sagesse, de discernement. C'est normal. Ou alors si on n'a rien appris, c'est pas très positif de toute manière. Voici une première réponse. Ça va? Vous me dites hein, si je dois arrêter. Hein. Et quand je dois arrêter hein. Personne ne me répond. Voici la première réponse. On va la prendre dans un très très beau passage. Mais ils sont tous beaux. C'est dans le psaume. Le psaume 92 et au verset 13 à 15. Et vous allez voir qu'il y a des beaux encouragements, mes frères et sœurs. Moi, j'espère que vous allez partir contents, hein. Heureux, joyeux, dans l'allégresse. Compte tenu de votre enthousiasme, je vois que ça ne va pas être facile pour moi. Écoutez, psaume 92, verset 13. « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. » Merci Seigneur. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître, comprenez le but, pour faire connaître encore, toujours, que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, c'est moi qui parle, et le psalmiste, et il n'y a point en lui d'iniquité. Dieu est juste, même si je ne comprends pas pourquoi il me fait passer par ici, pourquoi je vis ceci ou cela, l'Éternel, mon Dieu, est juste pour moi et pour mes frères et sœurs, pour tout le monde. Alors, il y a l'évocation du palmier et du cèdre. Des palmiers, on en a un petit peu, pas trop par chez nous, mais dans le sud de la France. Puis alors, si vous allez en Afrique, alors il n'y a pas de problème. Et puis le cèdre, ce sont quand même des arbres qui vivent au soleil, hein, quand même, il faut bien le dire. Le palmier et le cèdre, on peut commencer par le palmier, il nous est dit que son lieu de prospérité, c'est la proximité de la maison et des parvis de Dieu. Un frère, un croyant qui reste dans sa fidélité à Dieu toute sa vie, qui reste attaché à Jésus, à sa parole, à vivre selon son esprit, à respecter finalement cette vie divine, eh bien, c'est dans cette proximité que nous pouvons grandir. Et le palmier, il reste, et nous allons le voir encore d'une autre manière, et il a encore des fruits dans sa vieillesse. Et j'ai lu dans mes ouvrages que c'est souvent en fin de vie que le palmier porte les fruits les plus savoureux, les plus sucrés et les plus gros. Pas au début, c'est comme la vigne, ça. Hein. Quand vous plantez une vigne, il faut attendre des années avant que... Et vous allez avoir quelques grappes au départ, et puis alors après, ça va exploser. Hein. Et c'est intéressant de prendre en considération tout cela. Il nous est dit qu'ils sont pleins de sève. Ça, c'est la bonne santé, on peut dire. Ils sont verdoyants. Parce qu'il y a, en quelque sorte, une vie intérieure qui nous parle de vitalité. Que nos cultes et nos réunions de prière soient animés d'une vitalité de l'esprit. Moi, je viens aux réunions de prière. Je viens plus que je suis venu. Mais une chose qui... correspond, c'est que quand on est en prière le mercredi soir, on prie les uns après les autres. Et il n'y a pas de trous. Enfin, quand je dis des trous, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Pas des précipices, hein. Mais il n'y a pas de blanc. Et moi, je dis merci Seigneur, parce que c'est quand même un signe. On ne prie pas parce qu'il faut prier pour meubler le temps. Non, on prie parce que véritablement, il y a des prières qui sont constituées avec des inspirations spirituelles. Et là, ça fait du bien. Alors, si vous êtes en panne, si vous êtes à plat, eh bien, venez aux réunions de prière et vous allez vous faire du bien et vous allez ressortir d'une autre manière que quand vous êtes rentré. On se fait du bien dans les réunions de prière. Ah oui. Alors venez, mes frères. Ne nous laissez pas 3-4. 4-5. 6-7. 8-9. On a connu d'autres temps. On a connu d'autres temps. Nous, dans nos réunions, à une certaine époque, c'est il y a 20-25 ans, quand on était pasteur ailleurs, dans la réunion du mardi soir, il y avait jusqu'à 120 personnes dans la réunion de prière. Il y en a certains qui l'ont connu, qui sont ici. Ben, je peux vous dire que c'est autre chose. Autre chose. Alors, naturellement, il est question de vitalité, de santé, de jeunesse. C'est ça ce que nous avons besoin. De renouvellement, puisqu'il nous est dit qu'il reste toujours vert. Le palmier, le cèdre, ça évoque la grandeur. C'est haut, un palmier. Ah, y en a qui sont très hauts. Hein. Et puis, le cèdre évoque la majesté. Cette ramure qui couvre finalement des mètres et des mètres. Le palmier, palmier dattier, qu'on appelle phénix. Ça vous dit quelque chose, le mot phénix? On en trouve dans tous les supermarchés, enfin dans tous les jardineries, là. Hein, il est petit, il a des pics. Voilà. Bon, c'est un petit palmier ornemental. N'attendez pas d'avoir des palmes. Enfin, des dattes. Les palmes académiques, ce sera pour plus tard. Et il symbolise la paix. Et je vais vous dire pourquoi. Et la victoire. À chaque fois que dans l'Antiquité, il y avait des victoires, on coupait des branches de palmiers. Et ça symbolisait la victoire. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, les gens avaient la main sur des branches, sur des palmes. Et ils célébraient une victoire qu'ils allaient bientôt complètement éliminer. Ouais. Et ce sont des arbres emblématiques de, tout simplement du Moyen-Orient. Le palmier fait entre 14 et 20 mètres de haut. C'est pas mal hein, pour aller chercher hein, là-haut, parce qu'elles sont là-haut les dattes, hein, naturellement. Et ils peuvent vivre à peu près 200 ans. C'est quand même une longévité. Et c'est pour ça qu'il y a des lieux qui s'illustrent avec les palmiers. Jéricho, comme on l'appelait, la ville des palmiers. Élim, quand ils sont sortis du désert, là où ils ont trouvé le repos, les Israélites, c'était là où il y avait 70 palmiers. Enfin bon, ça fait partie de l'étude. La deuxième proposition qui nous est donnée à travers les bénédictions de l'automne, c'est dans Jérémie. Alors là, vous connaissez, c'est un très très beau texte. Jérémie, au chapitre 17 et au verset 7, me semble-t-il. Oui. 17, 7, vous allez reconnaître. Il est dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel », c'est un peu plus haut, et moi je prends au verset indiqué. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, confiance, foi, et dont l'Éternel est l'espérance. » Pas regarder de droite et de gauche en essayant de trouver quelques substituts humains, mais Dieu. Celui qu'on ne voit pas précisément. Regardez à Dieu, mais vous ne le voyez pas, mais c'est ça la foi. « Il est comme un arbre planté auprès des eaux. » et qui s'étend ou qui étend ses racines vers le courant. Il va dans le bon sens. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, ce qui nous permet de mieux comprendre cette semaine, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. D'abord, il est planté près des eaux. Allons là où il y a véritablement fraîcheur, et ressourcement. C'est pas la peine d'aller dans les lieux arides, désertiques, comme le monde peut en... Et les gens sont contents. Voilà, ils sont contents. Mais il n'y a rien de constituant et de qui peut les satisfaire au niveau de la vie, d'une autre vie, d'une autre dimension, même la vie morale. Reste en jachère, si l'on peut dire de cette manière. Planté près des eaux, c'est le psaume 23, hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me donne là de pouvoir être eh bien, auprès des eaux paisibles. Eh oui, eh, qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qui se passe là, au résultat de tout ça? Il restaure mon âme. Il y a tant de frères et de sœurs dont l'âme est desséchée. Elle a été véritablement eh bien, tellement pétrie d'une manière ou d'une autre, tellement esquintée, tellement malmenée, que nous avons besoin d'une guérison. Et quand la parole nous dit « mais il restaure mon âme », eh bien c'est dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans cette nourriture que nous prenons qui est un délice. Alors c'est à ce moment-là que nous allons, mais vous n'en avez pas le courage, vous n'en avez même pas le goût. Eh bien il faut demander à Dieu qui vous donne le courage et le goût, et ça va repartir. Parce que si nous attendions, nous, prédicateurs, qu'on ait le courage et le goût, je peux vous dire que vous n'auriez pas eu de culte ce matin. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait 8 jours que je me lève et que j'ai du mal. Tous les matins, je dois avoir une sciatique. Alors quand Myriam me voit marcher comme ça, elle m'a dit « Mais là, t'es vraiment dans l'hiver, toi. T'es au crépuscule. » Alors, non, mais c'est vrai, hein. Ce matin, j'avais mal. Oh là 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 là. Alors bon, je charge les dents, je dis, je vais y aller quand même. Hein. Oui, mais ça va mieux là maintenant. Et c'est pour ça que je suis assis. Et si ça continue, bientôt, vous me verrez prêcher, coucher. Si vous me le permettez. Alors, c'est les petits clins d'œil que je fais au passage. Tout cela évoque le rapprochement et l'intimité. Malgré les nombreuses difficultés inhérentes à la traversée de la vie, que nous connaissons les uns et les autres, chrétiens ou non, qu'elles soient familiales, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient morales, qu'elles soient spirituelles, où souvent tout est bataille et combat dans notre vie. On n'est pas épargné, hein, les frères et les sœurs, hein, dans les chrétiens. C'est pas parce qu'on connaît Jésus. Non, on n'est pas épargné. Tout ça, on peut le connaître. Ou on va le connaître peut-être, je ne sais pas. Le grand âge avec ses douleurs, hein, et ses maladies, tous ces désagréments de la vieillesse, à l'automne des jours ici-bas. Parce qu'on était quand même plus en forme, hein, quand on avait 20 ans. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Sachons encore reconnaître la belle saison. Et la belle saison, elle vient toujours avec le Seigneur. Encouragés au-delà des épreuves et dans l'espérance. Parce que Paul nous laisse une parole extraordinaire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour ceux qui sont dans l'âge du milieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu n'a pas changé dans cette affaire. Et il sera, nous est dit, avec nous jusque dans la blanche vieillesse. Vous vous rendez compte que le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le verset 7 dont on parlait, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Parce qu'il a été béni, parce qu'il est béni, parce qu'il demeure béni, parce qu'il a été planté, et c'est Dieu qui l'a planté, parce que nous avons pris racine, il est enraciné, parce qu'il y a des sources et des ressources d'eau paisible, on l'a dit déjà. Traverser sans être excédé ou tout simplement altéré par les souffrances du dessèchement. C'est ça l'image qui est donnée. Hein. Il n'y a pas de dessèchement, il ne faut pas se dessécher. Et le dessèchement vient avec le découragement. Ou alors on perd espoir, on se dessèche. Mais nous devons être toujours ranimés par le souffle de l'Esprit vivifiant et apporter le rayonnement de notre foi autour de nous. Parce que si nous présentons un homme desséché, un chrétien desséché, je peux vous dire que ça ne va pas donner envie aux autres. Hein. Et nous allons conserver notre vitalité sans craindre aucun mal. C'est ce que nous dit le psaume 23. Hein. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, naturellement. Parce qu'il faut reconnaître que derrière, même s'il y a le fruit, il est exposé à toutes sortes de choses dans le soleil, naturellement. Hein. Il peut avoir manque d'eau, des choses comme ça. Mais il y a une chose qui est formidable, c'est qu'un arbre ou un fruit, s'il est exercé à l'endurance, eh bien cela produit le meilleur des fruits dans le verger de Dieu. Et nous sommes le verger de Dieu. Lisez le livre des Cantiques des Cantiques. Ah oui, il est beau le verger de mon bien-aimé. Je ne m'appelle pas Tsunamite, mais c'est quand même ça. C'est un livre merveilleux. On l'a ouvert il y a 3 semaines, 1 mois, là, Tsunamite. Ouais, extraordinaire ce livre. Je termine. Alors, l'automne passé et ses brûlures, ou les brûlures de l'été plutôt, et l'automne passé, il y a à un moment donné en fin de vie une quiétude apaisante. On voit des frères et des sœurs qui quelquefois étaient drôlement nerveux, hein ? Des pasteurs qui étaient drôlement nerveux et qui à un moment donné... Ça va diminuer, mais en bien, en accueil, en tendresse. Et c'est vrai qu'on a connu des frères et sœurs qui ont apporté à l'Église dans les temps de leurs dernières années de leur vie. Allez, ne vous en faites pas, le Seigneur est là, il est bon, on en a connu, hein, et qui faisaient du bien autour d'eux. C'était plus les fougueux du début, hein, parce qu'il y a une œuvre qui s'est faite, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, où là les fruits de l'Esprit commencent à apparaître. C'est pas tant les dons, mais c'est les fruits. Et on court moins vite, on va moins loin, on est moins pile électrique, hein, ça c'est sûr. Il n'y a plus de précipitation intempestive lorsque nous avions 40 ans, par exemple. La course aux affaires a cessé parce que nous ne travaillons plus en retraite. Le stress et les tracas incessants qui épuisent peu à peu, et qui sait, si on ne laissera pas après nous, et ça c'est la vision que nous devons avoir, mes frères et sœurs, qui sait si on ne laissera pas après nous, lorsque nous serons partis dans la présence du Seigneur, dans cette dimension bienheureuse du ciel, les belles traces d'un témoignage, d'une vie accomplie, de l'accomplissement d'une vie accomplie. Alors les graines enfouies, n'essaie pas de gratter la terre pour faire sortir, elles vont venir toutes seules. Si vous êtes sincère, si vous aimez le Seigneur, si vous demandez au Seigneur, eh bien, donne-moi de pouvoir produire comme un arbre. Donne-moi les jours d'un arbre. Donne-moi les fruits de l'arbre. Donne-moi la beauté verdoyante de l'arbre. Ça, c'est important. Et à un moment donné, eh bien, la parole nous le dit d'une manière. En son temps, nous porterons un bouquet. Le terme de la Bible, nous porterons une gerbe fleurie et embaumée à la gloire de Dieu, de celui qui nous a créés, de celui qui nous a appelés à le servir, avec amour et fidélité, parvenu par sa seule grâce. C'est pas par mes forces, c'est pas par la loi, mais c'est par la grâce, la foi dans la grâce, à maturité. Et pour vivre enfin, tout simplement, dans la présence de son jardin céleste. Il sera loin derrière nous, le jardin terrestre. Hein? Vous savez ce qui s'est passé, hein? C'est la sueur de ton front. Et vous connaissez la chose. Conclusion. Job, chapitre 5, verset 26. C'est pour ça, je lui dis, retenez bien ce que je vous ai lu tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez du texte qu'on a lu avant de prier, là, avant de commencer le culte? Attendez, je mets des notes, hein, parce que là, c'est tout frais. Hein. Assurément, c'est dans la Bible, hein, ce que j'ai lu. Hein. Non, mais quand même. Bon. Oui. Voilà, mais c'est quelle référence? Vous ne savez pas. C'est à quelle page? Bon. C'est dans Psaume, chapitre 26. Enfin bon, le psaume 126. Le psaume 126. Il est beau, hein? Waouh, ça c'est extraordinaire. Le psaume 126. On va le trouver. S'il suffit de tourner quelques pages, ça ne se tourne pas encore toute seule. Alors, psaume 126, ça va? Ben moi j'ai, voilà, c'est curieux, je marque mes pages, puis j'enlève les papiers avant que je les lise. Alors, écoutez bien, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte sa semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alors, mes frères, comme une gerbe en son temps, nous dit la version seconde, quand tu seras rassasié de jour, nous dit une autre version, comme on dresse un gerbier, nous dit encore une autre version, quand le blé est mûr et à la saison voulue, quand ta vie sera pleine, et le verset 27 qui suit derrière, c'est « Accueille donc la vérité et fais-en bon profit. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses herbes. » Et ça, c'est l'attestation de notre intitulé de message, tout simplement, les bénédictions de l'automne de la vie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que Dieu nous donne sa grâce. On avance et on regarde devant nous, pas derrière. Merci à vous. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Merci parce que, en effet, Seigneur, nous savons pertinemment que tu es le Dieu de la vie, le Dieu vivant, le Dieu éternellement vivant, et tu as bien voulu nous faire la grâce de vivre éternellement avec toi. Mais la vie, c'est une école maternelle pour les nouveaux, une école primaire, une école secondaire, une école universitaire, plus nous avançons. Mais Seigneur, nous apprenons beaucoup de choses pour être prêts, pour être mûrs, pour être comme la graine qui quelque part eh bien, est dans l'attente, mais un moment viendra où véritablement elle va s'éclore et elle portera en effet, Seigneur, eh bien, des fruits, elle portera des fleurs qui en feront un bouquet et qui en feront véritablement eh bien, là, un témoignage perpétuel de l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes. Et nos jours seront des jours d'éternité, comme les arbres. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.